Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Voilà, c'est l'heure des enjeux internationaux. Aujourd'hui, la Turquie entre récession et élections.
C'est ça, les élections, c'est dans 2 semaines. Elles seront passées le dimanche. Alors qu'il y a 1 semaine maintenant, l'économie turque entrait officiellement en récession pour la première fois depuis 10 ans. Un quart des électeurs serait d'ailleurs indécis pour ces élections. L'AKP du président Erdogan voit faiblir en effet un de ses chevaux de bataille. Reste maintenant celui du renouvellement des cadres et surtout celui du nationalisme, mais suffira-t-il à éviter l'essoufflement? On pèse ça avec vous avant les élections. Ahmet İnsel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone. Vous êtes professeur émérite de l'université Galatasaray, économiste, politologue et producteur d'une chronique hebdomadaire sur Açık Radio à Istanbul. Alors le président Erdogan, lui, plutôt combatif hein, en ce moment, en tournée avec 2-3 meetings par jour sur la mer Égée, mais les mauvais chiffres économiques qui s'accumulent et cette récession confirmée il y a 1 semaine. Le chômage aussi, lui, à la fin de la semaine dernière, on l'a appris, qui a atteint un plus haut depuis 2009, 13,5%. On pourrait dire, Ahmet İnsel, que ce sont des données qui tombent au plus mauvais moment pour un parti qui a construit sa réputation sur ses scores économiques en grande partie.
Tout à fait. Ralentissement économique, voire des éléments de récession, ont rendu très difficile, beaucoup plus difficile, la campagne électorale du parti au pouvoir, du parti de Tayyip Erdogan. Et d'ailleurs, c'est en perspective un peu de ce ralentissement économique que Tayyip Erdogan avait inversé les élections qui normalement, les élections législatives et présidentielles étaient prévues pour novembre 2019. Et il a avancé d'une année ses élections en juin dernier et pour éviter justement affronter l'opposition dans un environnement encore plus difficile.
Reste que ces chiffres ont donné lieu à une suite de commentaires là de la part du ministre de l'économie la semaine dernière assez long où il disait le pire est passé en termes d'activité économique, les prévisions les plus pessimistes ne se sont pas matérialisées. C'est vrai qu'il y avait déjà eu une récession après la crise de 2008-2009. Là, est-ce qu'on a affaire à une crise conjoncturelle liée aux difficultés avec les États-Unis, on le sait, des droits de douane qui ont doublé sur certains produits, ou un ralentissement plus général et plus inquiétant?
La crise de 2008-2009 était une crise strictement externe à la Turquie qui avait un effet, alors qu'aujourd'hui la crise a une origine totalement interne. Il y a le ralentissement de l'économie mondiale qui accélère les effets, mais il y a l'épuisement de la croissance économique en Turquie, l'épuisement de cette croissance basée essentiellement sur le bâtiment et travaux publics, construction, etc. On voit par exemple le secteur du bâtiment est vraiment en crise aujourd'hui avec énormément d'immeubles qui ne se vendent pas et les secteurs qui sont touchés par les importations avec une dépréciation très forte de la livre turque depuis un an et demi. Les effets de tension avec les États-Unis sont des causes accélérateurs de cette crise, mais ne sont pas à l'origine de cette crise. Le ralentissement de l'économie turque était attendu depuis quelques années et le gouvernement et Tayyip Erdogan a maintenu cette politique de croissance un peu surchauffée par des moyens de bord, mais qui s'épuisent aujourd'hui. Par exemple, les réserves de la Banque centrale diminuent, il y a une fuite des capitaux très importante et un ralentissement très très important des investissements directs étrangers.
Et de ce point de vue-là, qu'est-ce que ça signifie alors ces inaugurations, on dirait répétées, de grands projets de la part du président Erdogan? Il y a eu évidemment l'aéroport d'Istanbul, enfin le nouvel aéroport international, et puis le nouvel l'hôpital d'Ankara, 3800 lits, 1 milliard d'euros inauguré la semaine dernière. On parle aussi d'un projet de canal à 16 milliards d'euros qui n'est pas fait, mais pour doubler le détroit du Bosphore. À quoi ça correspond ces grands investissements alors?
Il a toujours ce schéma en tête, un peu à l'ancien, où quand le bâtiment va, ou quand les travaux publics vont, tout va. Mais ça s'épuise, évidemment. Il veut dynamiser l'économie par le bâtiment, par les travaux publics. D'autre part, c'est aussi une manière de montrer qu'on fait des choses en Turquie, puisque le discours de Tayyip Erdogan a été toujours un discours quasiment, je dirais, d'un maire d'une grande ville. C'est-à-dire, nous faisons des routes, nous ramassons bien les poubelles, vous avez de l'eau qui coule dans vos robinets, etc. Donc, du coup, une logique de service aux usagers, mais ce service aux usagers n'est pas alimenté par une économie de plus en plus ralentissante. Donc du coup, l'augmentation de la dette inquiète considérablement, et puis des dérapages budgétaires. Jusque-là, le déficit budgétaire de la Turquie n'était pas très inquiétant, même mieux que les indicateurs en France. Mais par exemple, depuis 3 mois, il y a une ouverture des vannes de budget public qui a fait passer très très rapidement à des niveaux beaucoup plus élevés le déficit budgétaire.
Oui, et en ce qui concerne, c'est intéressant ce que vous disiez sur Erdogan avec une logique de municipalité, parce que il y a le gouvernement qui a mis en place des stands pour la vente de produits légumes et fruits frais moins chers, là, pour pallier un peu à la baisse du niveau de vie des classes moyennes. Justement, ces 25% d'indécis, c'était dans The Arab Weekly la semaine dernière. Est-ce que ça indique un risque de désaffection, comme le disent certains, voire de retournement du vote des électeurs classe moyenne de l'AKP ?
Oui, une partie des électeurs de classe moyenne de l'AKP sont hésitants. D'ailleurs, aujourd'hui, il est possible, bien sûr, c'est totalement indéterminé, mais il est possible que l'AKP et son allié, le parti d'extrême droite nationaliste, qui se présente ensemble aux élections,
le MHP.
Le Parti d'Action Nationaliste, perdent les grandes municipalités d'Istanbul, d'Ankara, que AKP contrôle, je rappelle, depuis 1994, sans interruption. Et il est possible, il est fort, bien plus possible à Ankara que le candidat de l'opposition puisse gagner. Istanbul semble être un peu la différence dans un mouchoir de poche. Et Adana, d'autres grandes villes, Bursa, risquent aussi peut-être de passer dans l'opposition. En tout cas, nous ne sommes plus dans une configuration où Tayyip Erdogan est sûr de gagner les grandes municipalités, alors que l'image de marque d'apparition même d'AKP est associée à la gestion d'Ankara et d'Istanbul particulièrement.
Oui, avec un parti AKP qui avait gagné effectivement toutes les dernières élections locales et qui domine encore à 43% ce paysage, on pourrait dire, local. Un référendum constitutionnel en 2017 qu'on pourrait dire de mauvais augure, puisque la majorité des noms ont été dans les villes quand même. Et puis, dernière chose sur la configuration du scrutin, on a un peu l'impression aussi qu'il y a des coalitions ou que ce serait un scrutin de bloc. Là, ça c'est assez nouveau, une alliance entre AKP et les nationalistes MHP, vous l'avez dit, mais aussi une alliance entre deux principaux partis de l'opposition, le CHP, également plutôt libéral-nationaliste, et puis plutôt le bon parti libéral-nationaliste, et le CHP, qu'on dirait quoi, libéral-centre-droit.
Oui, libéral centre droit, social-démocrate, le CHP. Et les deux partis ont fait alliance pour la majorité des municipales, mais cette histoire d'alliance a été inventée par Tayyip Erdogan, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, parce que pour les élections législatives et présidentielles, auparavant, le système électoral en Turquie, le système électoral interdisait toute alliance pré-électoral entre les partis politiques, parce que désormais Tayyip Erdogan, avec le système présidentiel à 2 tours, a besoin de dépasser les 50%, et on constate que finalement sa base électorale varie entre 42 et 50%. Donc du coup, il a besoin d'un apport permanent d'un autre parti politique, et il a fait alliance avec l'extrême droite nationaliste. Donc du coup, nous sommes dans une configuration à 2,5. D'un côté, l'alliance islamo-nationaliste, conservateur nationaliste dur, avec à sa tête Tayyip Erdogan. En face, une opposition plus faible, mais alliance d'une droite nationaliste libérale et d'une social-démocratie centriste. Et une troisième groupe formé par le Parti démocratique des peuples, qui regroupe essentiellement les Kurdes et la gauche socialiste, qui, dans certaines municipalités, ne présente pas de candidats afin d'affaiblir encore plus les chances du parti au pouvoir.
Oui, ça aussi, c'est un fait nouveau, effectivement, ce retrait un peu stratégique du HDP. Bah, écoutez, on aura l'occasion d'en reparler avant les élections, donc le 31 mars. Et pour le moment, également de la rhétorique nationaliste de Erdogan, la manière dont elle a porté ou non. Et pour l'instant, merci pour vos explications, Ahmet İnsel. Je rappelle, professeur émérite à l'université Galatasaray et producteur de la chronique hebdomadaire sur Acek Radio à Istanbul. Merci et bonne journée.